France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. L'archipel Claudel, en archive, c'était l'été 2005 sur France Culture. Après la musique, les gens de théâtre, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Maribel, Sylvia Monfort, Laurent Terzieff, Sophie Desmarais, entre autres. C'est la série proposée par François Angelier. On vous souhaite une bonne poursuite pour cette exploration, donc, dans les nuits de France Culture de l'archipel Claudel.
Je pense que la radiophonie est une auxiliaire inestimable du poète. Elle lui permet de se faire son propre interprète et de substituer l'intention originale à la représentation écrite conventionnelle toujours insuffisante.
Archipel Claudel, une série proposée par François Angelier.
Alors, je peux marcher ?
Oui.
Vous me ferez signe alors ?
Oui, je vais simplement faire ça.
Claudel témoignage, troisième partie, ce soir, Jean de théâtre. Avec Jean-Louis Barrault, Claudel trouve plus qu'un intermédiaire entre lui, la scène et le public. C'est d'une véritable filiation spirituelle, d'une transmission intellectuelle à haut voltage qu'il s'agira pendant près de 30 ans. Barrault, du soulier de satin à tête d'or, en passant par Partage de midi, créera et mettra en scène les plus grands textes claudéliens et incarnera sur scène, avec une industrie joueuse et un permanent souci de la partition, les plus forts personnages de Claudel. Il nous résume son lien à Paul Claudel dans des entretiens confiés à Lucien Toun en 1969.
Ben, j'ai choisi Claudel parce qu'il y a une espèce de logique aussi. D'abord, je suis... comment dirais-je ? Mais je suis chrétien. Et je suis mystique. Et l'homme m'intéresse. C'est pour ça que j'ai été vers Artaud. Il y a une certaine continuité, une certaine logique dans tout ça. Et le métier d'acteur m'intéresse sur le plan oriental. J'ai toujours été attiré par la méthode orientale. Quand j'avais 20 ans, j'avais envie de me mettre un masque sur la tête. J'avais envie de me mettre nu. Je voulais faire vivre mes muscles.
C'est ce qui vous a peut-être amené un peu au mime à un moment donné, non ?
Ah ben, c'est-à-dire que c'est pour ça que je me suis passionné immédiatement pour le mime quand j'ai rencontré De Croo. Tout ça faisait que j'étais plus proche de Claudel, peut-être, que de Brecht. Mais les quelques rapports que j'ai avec Brecht étaient très sympathiques. Et comme ce sont des circonstances qui ont fait que Villard a admirablement monté Brecht, et moi j'avais commencé avec Paul Claudel. Mais le sens de la bouche est intelligible, le sens du verbe chez Claudel, de la plastique verbale, de cette espèce de pantomime buccale qu'est la diction. Eh bien, tout cela faisait qu'avec Claudel, quand je l'ai rencontré pour la première fois en 1937, nous avions 42 ans de différence, et en 10 minutes, nous étions sur le même palier. Oui. Et on parlait comme deux jeunes gens de 18 ans, et on s'est amusé pendant 20 ans, à quatre pattes, sous des pianos, à faire des mises en scène. Enfin, vous n'auriez pas reconnu Claudel.
Non, mais alors précisément, je voudrais vous poser une question en ce qui concerne Claudel. Je crois qu'il y a très peu d'auteurs dramatiques de nos jours qui ont une personnalité d'homme de théâtre comme Claudel. Je veux dire qu'il me semble que quand on lit de près l'œuvre de Claudel, et surtout quand on lit de près les notes que Claudel a écrites pour ses œuvres, et surtout quand on pense aux deux ou trois versions que Claudel écrivait de ses œuvres, je crois qu'on est en présence d'un grand metteur en scène raté. Je veux dire qu'il n'a jamais fait, je crois, à ma connaissance, il n'a fait qu'une seule mise en scène à Héberto, et qu'il aurait pu en faire beaucoup d'autres. Alors je me demande si pour un metteur en scène jouant Claudel, il ne risque pas très souvent, en étant fidèle à Claudel, de faire du pléonasme.
Il est très rare qu'un auteur puisse se mettre en scène, de même qu'il est très rare qu'un compositeur de musique puisse être son propre
Brecht,
chef d'orchestre.
Parce que, pardon, Brecht était un grand metteur en scène.
Brecht était un grand metteur en scène parce que c'était un homme de théâtre. Et il écrivait des pièces pour son théâtre. C'est un peu comme Molière, si vous voulez. Tandis que Claudel était un poète qui obéissait à son inspiration et qui n'écrivait pas forcément pour que sa pièce soit jouée dans l'immédiat. Alors, à ce moment-là, il se livrait à une composition d'une pièce de théâtre, mais il ne pensait pas public à ce moment-là. C'est le contraire d'un homme comme Scribe, par exemple, qui disait « Je ne peux pas me tromper quand j'écris une pièce, car quand j'écris, je suis une salle pleine. » N'est-ce pas ? Il ne se mettait pas à la place du public. Il exprimait il obéissait à son inspiration poétique, à cette espèce d'injonction qu'il recevait, n'est-ce pas ? Alors, forcément, après ça, il fallait se débrouiller pour le porter au public. Et c'est pour cela que lui-même, ayant tout de même le sens du théâtre vis-à-vis du public, refaisait plusieurs versions pour s'approcher après coup du public. Mais au départ, c'était surtout une floraison personnelle.
Mais par exemple, Le Soulier de Satin, qui a été votre grand spectacle à la Comédie Française, puisque c'est vous qui l'aviez monté en 1943, je crois, oui. Et vous l'avez remonté par la suite à l'Odéon. Est-ce que vous pensez que... il y avait une troisième version possible de mise en scène.
Mais j'en ai fait trois.
Oui,
j'ai fait trois mises en scène.
Oui.
J'ai fait une mise en scène au Français, une mise en scène au Palais Royal et une mise en scène pour l'Odéon.
C'est ça.
Je crois qu'on peut très bien faire une autre. On peut très bien faire une nouvelle mise en scène du Soulier de Satin.
C'est-à-dire, je pense.
C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais très bien refaire une mise en scène pour l'Élysée Montmartre.
Voilà, c'est la question que je vais vous poser parce que vous savez qu'Hubert Ginoux a monté récemment la même pièce et lui, il est parti sur un plateau nu. Avec seuls quelques cintres et quelques projecteurs apportant un complément de mise en scène. Mais est-ce que vous-même, vous vous sentez en mesure de refaire une quatrième, justement ce qui est intéressant, une quatrième version pour l'Élysée Montmartre? Et alors comment dans ce cas-là?
Ah ben ça, je
mais vous croyez que c'est une chose possible?
Ah oui, c'est une chose tout à fait possible. Oui.
Ça correspond à votre tempérament. Non, parce qu'un jour, vous m'avez dit, et vous avez raison, c'est que souvent, vous avez envie de mettre beaucoup de choses dans un spectacle. Je me souviens, par exemple, de Henri VI.
Oui.
Bon, il y avait... comme vous le disiez vous-même, trop de barreaux et pas assez le temps d'épurer.
Oui, je mets toujours beaucoup trop de choses. De voilà. Même que quand je joue, je fais beaucoup trop de gestes.
Oui, mais dans Rabelais, c'était parfaitement réussi, donc vous pouviez continuer. Mais est-ce que vous pensez...
Mais j'en ai gommé.
Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez gommer une mise en scène au point d'en arriver à la stylisation, puisque vous parliez tout à l'heure de Villard, où vous savez qu'à un moment donné, on a créé dans la presse une fausse querelle d'un côté Barreau, de l'autre côté Villard, d'un côté Brecht, de l'autre côté Claudel, d'un côté Corneille, de l'autre côté Racine, enfin, etc. Est-ce que vous pensez que la stylisation correspond à votre tempérament de metteur en scène?
C'est pas une stylisation, c'était... On épure, on simplifie. Non, c'est-à-dire on condense, surtout. Il ne s'agit pas de... Pour refaire quelque chose de plus pur, il faut remettre au feu et recondenser. Il faut refaire bouillir. N'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de couper.
Et il faut avoir du feu, toujours.
Voilà. Ah oui. Alors, il faut remettre ça dans le creuset, et ce qui aurait exigé 3 minutes et 4 gestes, arriver à 2 minutes et demie et 2 gestes. Mais en mettre autant. Alors, l'art, c'est la densité. La qualité artistique et la politique, c'est la densité. C'est pas la rapidité, c'est pas le mouvement, c'est la densité et le rythme. Alors, si on arrive... à épurer, à faire recuire ça, n'est-ce pas, pour que ça soit encore plus dense et plus proche d'un rythme irrévocable comme un destin, à ce moment-là, on fait des progrès dans sa mise en scène, dans sa nouvelle mise en scène. Je crois, en effet, que l'on peut encore, pour le Soulier de Satin, mettre encore plus de choses tout en faisant une chose d'aspect extérieur simple. La troisième mise en scène du Soulier de Satin au Théâtre de France, on ne s'en est pas rendu compte, mais comme j'avais réussi à faire quelque chose de beaucoup plus simple, que beaucoup plus évident, hein, avec beaucoup moins d'objets, hein, beaucoup moins de bric-à-brac, ça m'a permis de mettre plus de choses qu'il n'y avait au Théâtre français dans la première version. qui durait 4h30, 5h moins le quart. Alors celle-ci durait 4h.
Quand vous parlez de Claudel, quand vous parlez de théâtre, vous employez souvent le terme de poète et vous parlez de musique également. Et je crois qu'un jour vous avez dit à propos de Racine, je ne sais plus quelle pièce, mais enfin vous avez dit mise en scène de Jean-Louis Barrault, musique de Jean Racine. Et alors est-ce que, à propos de Claudel, est-ce que vous pensez que c'est le verbe qui est le plus important ou c'est l'image poétique, mais j'allais dire même la vision scénique que transporte le mot qui est le plus important ?
C'est-à-dire que le théâtre, c'est de la poésie à plusieurs dimensions, à au moins trois dimensions.
Ça devrait être, mais ce n'est pas toujours. C'est,
enfin, on parle dans la théorie, on rêve en ce moment.
Oui.
C'est une poésie à au moins trois dimensions. C'est une musique à plusieurs dimensions, si vous voulez. Alors, vous avez tout à coup un rythme et une musique verbale qui peuvent très bien être pris par un rythme et une musique visuelle. Vous jouez avec tout ça. Vous jouez, c'est à la fois auditif, c'est à la fois visuel et c'est magnétique. Il y a, en dehors de la vue et de l'ouïe, il y a la présence, c'est-à-dire le toucher. Le toucher, c'est le sens mystérieux, c'est le sens divin. Dans le fond, rien ne me dit que lorsque vous me voyez, je ne vous touche pas les yeux. Ma présence vous touche les yeux, ou ma présence vous touche les oreilles, les tympans. C'est le sens universel, le toucher. Et le toucher n'a pas besoin de la peau pour être touché, puisque nous avons un halo magnétique, nous sommes des postes émetteurs, nous pouvons aller très loin dans notre émission. Donc on peut toucher à une grande distance. Et l'art du théâtre, c'est l'art même du toucher. On touche le spectateur à la poitrine, au sternum, avant de toucher à la tête. N'est-ce pas ? Nous formons tous, spectateurs et acteurs, une pile magnétique qui s'enchevêtre, si on rendait visuel les ondes et les rayons qui s'enchevêtrent, ce serait une bobine extraordinaire, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça l'art dramatique. Eh bien, c'est ce sens du toucher qui se traduit apparemment par la vue, apparemment par l'ouïe et beaucoup par le magnétisme et qui doit obéir à un certain rythme, une certaine densité, une certaine musique. C'est pour ça que, en effet, Claudel ou Racine, ce sont des compositeurs dramatiques. Ce sont des poètes et des compositeurs dramatiques. Vous voyez, par exemple, quand Claudel pose un thème, il le retrouvera une heure après. Comme dans Hamlet, par exemple, à un moment donné, il y a le thème de Fortinbras qui vient juste avant la folie d'Ophélie, et ce thème de Fortinbras va être repris à la fin. Comme c'est presque la première trompette du jugement dernier. Comme dans l'année, à la fin du mois de janvier, vous avez toujours un coup de soleil qui annonce le printemps, qui annonce le beau temps. Je l'ai remarqué, ça. Vers la deuxième quinzaine de janvier, vous avez toujours deux, trois jours de très beau temps. C'est le thème de l'été, qui est posé là comme la plaine de Fortinbras. Puis après, on repart dans les neiges de février, les frimas, etc. Et puis tout à coup, vous revoyez en juillet ce beau temps qui apparaît, c'est Fortinbras qui arrive. N'est-ce pas ? Eh bien, la composition d'une pièce de Claudel est faite comme cela. Il m'avait d'ailleurs confié que le grand professeur qu'il avait eu, le grand maître qu'il avait eu, c'était Beethoven.
Madeleine Renaud confia rarement ses souvenirs de Paul Claudel, ce qui rend d'autant plus précieuse cette interview brève de 1965.
Je crois que s'il y a des choses qu'il aurait détestées, il aurait aimé tout cet élan que l'on a vers la jeunesse et tout ce que la jeunesse d'ailleurs apporte d'enthousiasme maintenant. Une jeunesse plus libre certainement que celle qu'il a connue.
Dans la mesure où on peut définir Paul Claudel, est-ce que sa définition a changé en 10 ans?
Non. Si vous parlez de l'homme, elle n'a certainement pas changé. Il serait le même, certainement, cet être à la fois si familier et si grand. Par contre, je trouve que son œuvre a maintenant atteint toutes les couches de public, n'est-ce pas? C'était des œuvres qui avaient la réputation d'être difficiles, de ne s'adresser qu'à une élite, qu'à des intellectuels. Et bien maintenant, vraiment, Claudel est joué couramment et est reçu avec, je dirais, avec amour et avec un amour facile, vous comprenez? Ça, oui, ça peut être la grande différence. Le temps a fixé son immortalité, certainement.
Dans son œuvre dramatique, quelle est la pièce la plus marquante encore 10 ans après sa mort?
Il me semble que ces deux chefs-d'œuvre, les deux grands pots, les deux grandes œuvres, c'est tout de même Le Soulier de Satin, avant tout, parce que Le Soulier de Satin est immense. Le Soulier de Satin correspond à tous les sentiments, à toutes les... C'est vraiment la grandeur, c'est vraiment... Il contient tout, il contient toute l'œuvre de Claudel. Et Le Partage de Midi, qui est vraiment d'une audace, d'une actualité, d'une force extraordinaire, et d'un modernisme extraordinaire. Je crois que ce sont ces deux... Tout est admirable. J'ai eu le bonheur de jouer L'Échange il y a quelques années. C'est merveilleux. Le Christophe Colomb, enfin. Mais les deux grands chefs-d'œuvre, c'est certainement Le Soulier de Satin et Le Partage de Midi.
Laquelle de ces pièces est votre livre de chevet?
Oh, Le Soulier de Satin.
Claudel, vous donnait-il des conseils quand vous interprétiez ses œuvres?
Claudel était un prodigieux homme de théâtre. Il avait le sens de la scène, le sens de l'acteur. Et je me souviendrai toujours un détail très émouvant, vraiment. Justement, pendant que nous répétions L'Échange, eh bien, nous étions à ce moment-là au théâtre Marigny, et il assistait à toutes les répétitions. Et comme il était un peu sourd, il s'installait sur la scène à côté de nous, et nous faisions des slaloms tout autour de lui, dans les jeux de scène, n'est-ce pas, indispensable. Nous finissions par l'oublier d'ailleurs, mais il nous reprenait, il nous donnait des conseils. Et mon Dieu, la veille de la répétition générale, Jean-Louis Barrault lui a dit, cher maître, il faut tout de même que nous répétions avec tous les décors, tous les accessoires, il faudrait que vous alliez dans la salle. Alors il nous a répondu cette chose merveilleuse. Oh, écoutez, laissez-moi l'entendre encore une fois près de vous. C'est peut-être la dernière fois que je l'entends.
Il était comme un père pour vous, parfois dur, exigeant.
Il a été surtout extrêmement près de Jean-Louis Barrault. Il était, je crois, je peux le dire, car sa famille l'admet, son fils d'élection.
À l'occasion de la parution au sein des cahiers Claudel, édité par Gallimard, de la correspondance Claudel-Barrault, ce dernier confie ses souvenirs, notamment ceux de la geste épique qu'a été la mise en scène du Soulier de Satin en novembre 1943, à Patrice Galbeau. Barrault déroule, amusé et trépidant, l'historique de son rapport à Claudel, un lien fondé sur la matérialité du travail théâtral, verbal et scénique.
En général, la lecture se faisait dans le comité de lecture. Et là, j'avais voulu jouer Le Soulier de Satin. Et on avait fait ça au foyer des artistes. Et j'avais retiré ma veste pour lire Le Soulier de Satin.
Ça ne se faisait pas, ça?
Non, non. Je pense que quand je suis entré aux Français en 1940, théoriquement, les pensionnaires n'avaient pas droit à l'ascenseur.
Ah, c'était... En 1940?
En 1940. Un sociétaire m'a fait sortir de l'ascenseur, parce que je n'étais que pensionnaire. Et c'était pas un vieux sociétaire. C'était, je ne dirais pas le nom, mais c'était un sociétaire moderne. Enfin, là, j'avais retiré ma veste pour lire une pièce. C'était déjà le changement.
C'était l'amorce.
C'était déjà la modification du protocole. Non, la modification du protocole. On allait vers la simplicité.
Marqué avec quoi enlever la veste et retrousser les manches.
Oui, pour dire
le satin, une voix.
Alors, c'était de Tignes, car j'aime beaucoup la montagne, et on allait souvent à Tignes avec Madeleine. On vivait dans les chalets de bergers, là-haut. Alors, c'est une lettre que je lui adresse de Tignes le 15 juillet 42. On avait sans doute eu un Ausweis pour aller à Tignes. Maître, j'ai attendu d'être passé en zone libre pour vous envoyer le compte-rendu de la lecture du soulier. Je peux ainsi vous en dire plus long. Vendredi 10 a eu lieu la lecture de la première et de la deuxième journée. Après avoir lu la première journée entièrement, y compris la mise en scène, le comité emballé me pria simplement de leur faire dérouler devant eux la deuxième journée en leur lisant au passage quelques scènes. Vous arrivâmes ainsi dans l'enthousiasme jusqu'à l'ombre double et la lune, et à l'unanimité, cette première représentation fut reçue. Je crois d'ailleurs que je mens un peu, je crois qu'il y a eu l'unanimité, moi une voix. La plupart des membres du comité auraient désiré que cette lecture du soulier de Satin s'arrêtât là, mais très prudemment et désirant sans doute que tout le monde prenne bien ses responsabilités, l'administrateur insista pour que le lendemain je leur fasse dérouler, comme je l'avais fait de la deuxième journée, le reste de la pièce entière. Les membres du comité se rangèrent à la demande de M. Vaudoyer et le lendemain eut lieu, samedi 11, lecture de la troisième et quatrième journée. La troisième journée, dramatiquement, leur parut lourde à supporter. À la première moitié de la quatrième, je sentis littéralement mon public se liquéfier. Il ne réapparut, mais alors pour sangloter par l'émotion, que tant de grandeur provoque, qu'à la dernière scène de la pièce, c'est-à-dire l'épilogue. Je dois dire, moi, qui lisais et qui, je vous assure, maintenait de toute ma force la tension du drame, je dois dire que cette fusion du public ne vint pas des personnalités qui le composaient, mais serait venue, à mon sens, de n'importe quel public. Car je dois dire aussi que tous suivirent la lecture avec la plus grande franchise, la plus grande attention, et même j'en fus surpris, à cause du modernisme, vilain mot, de la chose que nous présentions, avec le plus grand enthousiasme et le plus grand désir de le servir. Vous aviez d'ailleurs en la personne de M. Paquet, un partisan acharné, et comme je le comprends. Oui, parce que étant pensionnaire, je n'avais pas le droit de mettre en scène une pièce si je n'étais pas supervisé par un sociétaire.
Ça n'existe plus.
Ah non, bon, non. Alors, Baquet, qui était un sociétaire d'une très grande culture et très intelligent et très claudélien, avait accepté de me superviser, entre guillemets, pour permettre à un pensionnaire de mettre en scène. C'était la première fois, en fait, qu'un pensionnaire mettait en scène. Il y avait, je crois, eu Dux à un moment donné, mais je ne crois même pas, parce que Dux était déjà sociétaire. Mais il fallait qu'un pensionnaire ne pouvait pas mettre en scène une pièce. Il fallait qu'il y ait un sociétaire qui le supervise. D'ailleurs, tu sais, à 30, 32 ans, mettre en scène les grands sociétaires, c'était vraiment être dans la cage aux fauves. Alors, je continue. Ils délibérèrent, moi je me tins à ma place, c'est-à-dire que je me tue, et voici ce qu'ils me chargèrent de vous dire. Monsieur Vaudoyer d'ailleurs vous l'écrira. Il propose deux solutions. Première solution, monter la première moitié telle que je l'ai lue, c'est-à-dire telle que nous l'avions arrêtée tous les deux, puis envisager de monter ultérieurement la seconde moitié, en s'inspirant pour cela du succès de la première, non plus à la suite, mais ultérieurement. Deuxième solution, de même qu'à la distance voulue, plusieurs lignes de montagne ne font qu'un seul horizon, c'est une réplique du soulier de Satin. Si vous acceptiez de resserrer la troisième et quatrième journée en une prolongée se terminant exactement comme la quatrième, ils sont résolus à monter cet hiver tout le soulier de Satin ainsi resserré en une seule représentation de 4h30 à 5h. C'est ce qui d'ailleurs a été fait. Ce qui est exceptionnel, ce qui garde le caractère exceptionnel à cette réalisation. Voilà quel a été le résultat de la lecture les 10 et 11 juillet.
Dans cette lettre, vous dites que votre sort au français est lié et reste lié à celui du soulier de Satin. Pourquoi?
Oui. Je voulais partir du français pour monter le soulier de Satin. On m'a proposé de rester au français en montant le soulier de Satin. Et alors j'ai dit, oui, ben alors je reste au français, maintenant je me le rappelle, si je peux monter le soulier de Satin.
Sinon, je pars.
Sinon, je pars. C'est bien que je dis, en effet, dans cette lettre, mon sort au français est lié et reste lié à celui du soulier de Satin. D'ailleurs, on a commencé les répétitions. Par trois fois, il n'y a eu personne. Finalement, moi, je ne savais plus quoi faire. Robert Desnos, qui était mon confident et mon conseiller, c'était mon meilleur ami, me dit, à un moment donné, eh bien, tu n'as qu'à les mettre dans les frais. Commande des décors. Alors, j'ai commandé des décors, tout de suite. Et à un moment donné, on a dit, mais on ne peut pas monter le soulier de Satin. Et alors, il y a eu une réunion au comité, et on a dit, on a commandé tout de même des décors, il y a déjà des frais d'engagés. Et c'est à cause des frais d'engagés qu'on dit, oh, bah, alors s'il y a des frais d'engagés, alors, bah, alors montons le soulier de Satin. Robert Desnos avait-il raison ?
D'ailleurs, si vous étiez parti, Claudel n'aurait sûrement pas laissé.
J'emportais le soulier de Sada avec moi. Oui, oui.
Dans ses nouvelles réflexions sur le théâtre, Jean-Louis Barrault a écrit, rappelant ses négociations avec Claudel, « Il restait enfin à choisir le décorateur, lui voulait José Maria Certes, moi pas. Nous cherchions donc un peintre qui pourrait avoir notre agrément à tous deux. Ce n'était pas commode. Finalement, José opposait à son ami Certes, mon ami Couteau. » Hier d'ailleurs, Jean-Louis, vous nous disiez les difficultés que vous aviez eues pour trouver un décorateur qui plaise à Claudel. Voici à ce sujet une lettre du 12 février 1943.
C'est une lettre que je lui écris pour lui rendre compte des décors. Et lui voulait José Maria Certes. Et José Maria Certes, j'avais une grande admiration, mais je ne me sentais pas en intimité avec José Maria Certes. Il n'y avait pas cette connivence que j'avais avec Claudel. Alors, puis je trouvais que c'était plutôt... aller dans les petites choses critiquables de Claudel, c'est-à-dire le côté un peu baroque, un peu opéra. Tu connais d'ailleurs un mot féroce de forain à une exposition de José Maria Certes qui faisait toujours des grands personnages très musclés, n'est-ce pas ? Et à un moment donné, cette merveilleuse exposition de puissance, n'est-ce pas ? Et un peu... exagéré peut-être. Et il y a quelqu'un qui dit à Forain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça après l'exposition? Et Forain répond, oh, n'ayez aucune crainte, ça se dégonfle. Enfin, je parle de la méchanceté de Forain. Je ne parle pas des... enfin, le côté un peu enflé chez Claudel, un peu opéra, n'est-ce pas, aurait été, me paraissait justement servi par l'art de José Maria Certes, qui était incontestable, mais qui allait plutôt dans ce sens-là, alors que moi, j'avais envie, au contraire, de simplifier Claudel.
De
le gommer un peu, de l'intérioriser, si vous voulez. C'est pour ça que je préférais une densité, une pâte plus proche, par exemple, j'ai pensé à Roux. Mais
il vous dit pas. Quelle abomination.
Oui. Et on cherchait des peintres, alors j'ai demandé à Derain, et puis ensuite à Braque, alors tout ça, je lui raconte ça. Et à un moment donné, un jour dans la conversation, il me dit « Oh, c'est fou ce que les peintres manquent d'imagination. » Il avait le côté un petit peu, le côté de caractère Ubu, mais enfin, il était conscient de son humour, n'est-ce pas, de ses exagérations de Père Ubu. Et il me dit, regardez comme les peintres manquent d'imagination, regardez Cézanne, il n'a jamais rien peint que des pommes. Maître, je vous ai envoyé deux cartes ces jours derniers, J'ai reçu avant-hier la vôtre. D'après les renseignements que j'ai pris, monsieur Certes devrait être à Genève dans une clinique pour y faire soigner une jambe malade. Grâce à la bonté de madame Berthelot, nous avons appris, est-ce vrai, qu'il n'était pas très satisfait par moi, sans doute comme il me l'avait dit, parce que j'avais trop réfléchi à la question. Vous aviez donc raison à l'origine en doutant de notre entente éventuelle. Mais ces renseignements ne nous parviennent pas directement. Toutefois, nous avions réussi à lui faire parvenir par la voie diplomatique espagnole une lettre et nous attendons encore la réponse. Point de suspension. Pour ne pas perdre de temps, tout le reste marchant admirablement, j'ai rendu une visite à Derain, puis à Braque. Le premier ne se sent plus la patience de ses 20 ans. De plus, il est débordé de travail. Vendredi 12, deuxième carte. Braque, lui, se sent trop pris par ses propres tableaux. L'un et l'autre se sentent trop vieux, entre guillemets. Néanmoins, j'ai parlé de l'annonce à Braque. Il accepterait peut-être.
Toujours cette demande de l'annonce par Claudel.
Ces deux refus que je comprends, car il n'y a qu'un jeune qui puisse y attacher de l'intérêt, m'ont découragé pour aller voir Rouault, qui est encore plus vieux et paraît-il plus solitaire. Alors, sûr de ce que nous voulons faire tous les deux, j'ai demandé à un ami intime à moi et dont le talent correspond bien avec le soulier d'exécuter décors et costumes. Il s'appelle Lucien Couteau et connaît bien la question théâtrale. De plus, il a beaucoup d'imagination. Nous avons déjà beaucoup travaillé depuis une semaine et j'ai l'intention de faire le voyage pour vous montrer ce que nous avons fait. Première semaine de mars. Troisième carte. Il adore le soulier, Lucien Couteau, et travaille avec ferveur. Je constate qu'il vous sert admirablement, vous verrez. La distribution définitive est celle que nous avions arrêtée ensemble. Vendredi 12, quatrième carte. Ce sont des cartes interzone. Enfin, mardi 16, le matin, on va me dérouler sur scène une plantation complète des différents décors. Je verrai dans les effets et difficultés du déroulement général de la pièce, c'est très utile. C'est sur scène que nous calculerons les bonnes proportions. Je n'aime les calculer que là. C'est vrai, je fais toujours les décors sur scène. On prend toujours les mesures là. Nous avons donc bien travaillé jusqu'ici. Je suis très content de la troupe. Honegger a déjà fait les deux tiers de la musique. Quel homme simple, humble et magnifique. Je vous demande de me faire confiance une fois de plus pour les décors et les costumes. Je ferai le voyage exprès à Brangues pour vous rassurer au besoin. C'est très bien. Je crois savoir ce que vous voulez. Excusez-moi si ces quatre cartes sont écrites à la hâte. Je travaille comme un forcené. Croyez à mon profond et affectueux dévouement. Il y a toujours...
Dans plusieurs lettres, il s'inquiète beaucoup de la censure, Claudel. Quel était le problème de la censure en 1942 pour le soulier ?
Il y avait un problème de censure parce que, surtout la quatrième journée, pour la quatrième journée, il y avait une... on parlait toujours que de l'Angleterre, il faut conquérir l'Angleterre, etc., n'est-ce pas ? Alors, il est évident qu'on risquait d'avoir cette quatrième journée censurée. Et puis, à un moment donné, quelqu'un de... Je ne parle pas de la Gestapo, mais enfin des Allemands chargés de la culture à Paris, sont venus me voir en disant... Nous vous avons choisi pour mettre en scène un opéra de Werner Heck. Alors, j'ai répondu que je ne pouvais pas, parce que j'étais tout à mon soulier de satin. Et on m'a dit, la personne, enfin, l'officiellement me dit, même nous n'aimons pas Claudel. Ah, je dis, ça, c'est votre droit, mais nous, on aime Claudel. Et si nous retardons le soulier de satin, me dit-il, alors je dis, mon inspiration sera retardée d'autant. Donc vous refusez. Je dis, oui, je suis navré, mais je ne peux pas parce que je suis très pris par le soulier de satin. Je ne pense qu'au soulier de satin. Alors il est parti et on m'a fait comprendre le lendemain qu'on risquait non seulement de ne pas jouer le soulier de satin, mais que j'allais un petit peu chercher mon inspiration dans un camp de travail, entre guillemets, n'est-ce pas ? Mais en fait, finalement, cet homme... paraît-il, a dit non, je me suis placé sur un plan purement artistique, je tiens à rester là et laissons les faire. C'est bien que tout de même le soulier de satin était monté en dépit de l'occupant. D'ailleurs, les journaux qui était favorable à l'occupant, disait ils attendent l'avenue d'Eisenhower pour présenter leurs souliers de satin, etc. Enfin, il y avait et en revanche, de monter le soulier de satin à la Comédie Française à ce moment-là prenait une espèce de valeur nationale de, je ne dis pas de résistance héroïque, mais d'opposition spirituelle. N'est-ce pas ? Ça débordait le cadre simplement du théâtre et du soulier de satin.
Et aux Français même, vous n'avez pas eu d'obstacle à l'époque ?
Non. On a eu simplement des obstacles de retard, tout le temps.
Mais pas d'intention, je veux dire.
Non, je crois pas. Je ne me les rappelle pas. En tout cas, c'est pour ça qu'on a mis tout de même plus d'un an. Cette lettre-là montre un petit peu l'atmosphère dans laquelle nous travaillons. Maître, ça date de mars 43. Maître, avant-hier matin, j'ai eu une longue entrevue dans le bureau de l'administrateur avec le directeur de scène, l'homme le plus estimable de la maison, la costumière, artiste courageuse et emballée par notre tâche, le chef machiniste consciencieux, le contrôleur général, qui venait pour fixer les modifications que cette longue représentation nécessite, modifications maintenant arrêtées, et le peintre enfin, c'est-à-dire Lucien Couteau, dont les maquettes sont magnifiques. Il nous a bien fallu constater que la difficulté toujours croissante de trouver du bois, de la toile, surtout du tissu, même en piochant dans de vieux décors, en les démolissant et en repeignant dessus, ne nous permettait pas, en travaillant dans la fièvre, de passer avant les premiers jours de juin. Aussi, et avant d'arriver à une exécution parfaite de ce spectacle exceptionnel, a-t-on décidé de ne le faire paraître que fin septembre, ou plus précisément début octobre. Il a bien fallu me ranger à ces raisons raisonnables. J'aurais pu vous écrire avant-hier soir, mais je voulais laisser passer ma rage, comme je vous demande en ce moment de laisser passer la vôtre. Pour le soulier, je me sens une ténacité invincible qui fait naître en moi une patience toute remplie de dangers qui alimente mon courage. À la réflexion, si cette décision est exaspérante pour nous deux, elle doit servir votre œuvre, étant donné les décisions suivantes prises aussitôt. Premièrement, les répétitions continuent et continueront jusqu'au 15 juillet. À cette date, toute la troupe saura bien son rôle, ses places et ses gestes. Sur ce dernier point, nous n'aurons pas trop de temps, étant donné le peu d'entraînement qu'ils ont plastiquement. Me voilà d'autre part en mesure d'exiger d'eux certains gestes très précis. Deuxièmement, la construction des décors et des costumes commencera le 22 de ce mois, mars. Nous serons donc en mesure de dérouler la pièce entière dans les décors et les costumes avant la fin de la saison. Troisièmement, j'ai obtenu que tout congé soit supprimé du 1er septembre au 31 octobre inclus. Le pauvre Jean-Louis. Le 1er septembre, tout le monde sera donc là, sans exception. Nous aurons donc tout septembre pour bien rôder le spectacle. Il est évident que cela n'en vaudra que mieux. Je tiens à vous dire que sur ce dernier point, j'ai été catégorique, déclarant que je ne continuerai le travail qu'à cette condition, et comme si je ne pouvais continuer ce travail aux Français, j'irai immédiatement le continuer ailleurs, cela ferait du scandale. À ce sujet, je demande aujourd'hui à être entendu par le comité d'administration. Voilà, maître, les nouvelles, c'est un léger repli avant la victoire finale. Sachez bien que l'on ne pouvait vraiment pas faire autrement. D'ailleurs, je me rappelle les doutes que vous formuliez sur la date du 15 avril, puissiez-vous rapidement approuver cette décision qui, je tiens à le dire, n'a pas été le fait d'un esprit d'opposition, au contraire. Pour ma part, j'ai déclaré que je ne ferai rien d'autre aux Français et ailleurs que le soulier de satin sur lequel je me bute avec un entêtement. L'entêtement que vous connaissez. Lorsque vous viendrez le 26, je vous montrerai les maquettes de Couteau. Je ne puis pas croire qu'elles ne vous plairont pas. Nous aurons la possibilité, grâce à cette remise, de perfectionner les détails, de simplifier, de bien donner les touches d'accent, etc. À la réflexion, voyez-vous, et en considérant la chose objectivement, c'est-à-dire en nous excluant tous les deux, il est dans l'intérêt de la représentation que ce soit un peu retardé. Car, je le répète, les répétitions continueront et l'assurance de la suppression des congés pour septembre-octobre est formelle. Les 20 jeunes filles qui feront la mère me donnent beaucoup de satisfaction. J'espère vous montrer le père jésuite assez poussé. J'espère que cette lettre ne vous irritera pas trop longtemps. Moi aussi, je regrette qu'on ne puisse jamais travailler dans un lyrisme collectif, mais à la décharge des gens, la vie est si misérable que beaucoup en sont estourbis. Raison de plus pour leur coller le soulier de satin dans les gencives, dans le but charitable de les réveiller. J'aurais aimé le faire le plus tôt possible, et bien le plus tôt possible pour que le coup porte bien ses fin septembre, que notre lyrisme soit patient. Tout de même, même en septembre, un bon soulier de satin en pleine poitrine leur sera meilleur qu'un moxa sur la plante des pieds, comme dit Claude. Novembre 43, c'était juste avant la présentation. La diction des acteurs, sans doute, est bien perfectionnée. Pourtant, j'ai des observations à faire à X et à X, qui se remettent de temps en temps à bramer. Flamboyante dans le souffle du Saint-Esprit. Non, non, non! D'un seul trait accentué par une fusée verticale des deux bras unis et non élargie en une seule colonne ascensionnelle accentuée par la pointe des doigts. Flamboyant dans le souffle du Saint-Esprit, tout l'élan donné par le FL initial encore accentué par le second. Le corps lui-même depuis les reins et les jarrets y participant. Une étoile flamboyante dans le souffle. C'est cette aile au contraire qui donne la force, curieux, l'air d'esprit important à étudier. La même. Au revoir, sœur chérie, dans la lumière éternelle. Grosse, grosse faute. Au revoir, sœur chérie. Quatre R, mais le quatrième doit céder la place pour l'expression OCH tendre, caressant. Dans la lumière éternelle, l'élan, la fusée, l'enthousiasme est donné par le L initial. R est importance, important, mais sa force est due à l'air répété dans éternel. Demi-soupir après mière et éther. Sur terre, légère durée et léger aiguisement de la voix qui meurt sur nelle. La mélodie est très délicate, portant sur une voyelle aussi pâle que les E. Les deux E ouverts de R et terre n'étant pas tout à fait les mêmes. Ce qu'il y a de bien curieux, c'est que c'est la consonne qui donne le timbre de la voyelle. Mais que X ne s'affole pas de ses subtilités, l'important est l'élan donné sur le L de lumière. À XX maintenant. Je ne puis entrer dans le détail, la musique m'ayant gêné, mais je suis sûr qu'il ne faut pas dire avec une enfilade de valeurs homophones à la Mounet Sully. Vers moi, le grand apôtre du firmament qui existe dans cet état de transport. Quelle est l'idée principale soulignée par la stature gigantesque du résistant? Le grand apôtre du firmament. C'est là le point fort, le P, une puissante communication avec la base. Firmament, une solidité éclatante et indestructible, affirmée par le F et confirmée par les deux syllabes homophones de maman. Donc, beaucoup d'autorité qui existe dans cet état de transport est très mystérieux malgré le coup d'éclairage de hors de la syllabe finale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la même idée qui s'est exprimée par le père jésuite. Ce qu'il essaiera misérablement de dire sur la terre, je suis là pour le traduire dans le ciel. Saint Jacques est une espèce d'engin surnaturel qui transporte les choses d'un monde à l'autre, de la terre au ciel, du fait au sens. C'est sa raison d'être. C'est pourquoi les quatre T qui existe dans cet état de transport. Il faut donc dire, en abaissant la voix après firmament et en syllabisant, qui existe dans cet état de transport. L'or final prend alors un éclat magnifique pour finir comme une étoile. En règle générale, tout acteur du théâtre français doit se demander qu'aurait fait Mounet Sully à ma place. un tempérament magnifique pourtant, et ne pas le faire. Mais, vous voyez, là, c'est un... Bon, c'est son exagération, toujours, contre... Mais, vous voyez, le détail du travail qu'on faisait avec les syllabes et les voyelles et les consonnes.
Jean-Louis, est-ce qu'il est possible, un comédien qui joue un rôle aussi important que les rôles du Souhait de Satin, de penser à tout ce que demandait Claudel, sur des mots?
C'est possible parce qu'on y pense en répétant. Et quand on, à force d'avoir répété, on le fait. Et puis, on le fait si c'est exact charnellement. Et il est évident que cette répétition des quatre T, n'est-ce pas, prépare comme une espèce de tremplin pour pouvoir soulever l'accord parfait de or dans cet état de transport. Et je veux dire que si on entre dans l'intimité du verbe, on s'y retrouve humainement. Sensuellement, on ne peut plus faire autrement. D'ailleurs, dans Racine, vous le trouvez la même chose, n'est-ce pas? Thésée est arrivé. Thésée est en ce lieu. Le peuple, pour le voir, court et se précipite. Rien que la succession des P, n'est-ce pas, donne une espèce d'agitation de toute une population qui se précipite. Hein, et au centre de l'Alexandrin, il y a court comme un rond. Donc toute une population se précipite pour remplir l'agora. Le peuple, pour le voir, court et se précipite. C'est vraiment c'est un tableau fait avec des mots, des consonnes et des voyelles, n'est-ce pas? Alors, si on est intimement lié à la vision de l'image, instinctivement, le verbe épouse ce qui est efficace pour dessiner l'image, c'est-à-dire certaines consonnes, certaines longues et brèves.
Hein, c'est vrai, non? Oui, bien sûr, c'est vrai. À un moment, vous parlez de l'enthousiasme des répétitions, pendant le soulier. Mm-hmm. Vous avez joué des pièces au français, Dieu sait. Mm-hmm. Vous avez mis en scène pas mal. Est-ce qu'il y a eu plus d'enthousiasme pour le soulier que pour d'autres pièces que vous avez montées là-bas? Et s'est passé quelque chose chez les comédiens?
Et d'abord, il y a eu un trac. Ils n'osaient pas venir. Ensuite, ils se sont mis à travailler très sérieusement. Et il y a toujours un symptôme très caractéristique pour une pièce, c'est quand le personnel, les machinistes, les électriciens, les accessoiristes, les tapissiers, ne se retirent plus dans leur bureau, mais passent tout naturellement dans la salle pour voir la répétition. Quand le personnel va dans la salle pour suivre la répétition, c'est très très bon signe pour la pièce. À ce moment-là, c'est gagné. Et à un moment donné, des répétitions du soulier de satin, les machinistes, les électriciens, les tapissiers, les accessoiristes passaient dans la salle et regardaient la répétition. Même les acteurs qui ne travaillaient pas.
Ça, c'est rare.
C'est très rare. C'est très rare. Et c'est à ce moment-là que on se dit, tiens, c'est en train de prendre. Et pour le soulier, c'était très caractéristique. Parce qu'on revenait de loin. Tu sais, monter le soulier de Satan en 43, c'était... 42-43, c'était vraiment... inusité.
Fallait le faire.
Oui.
C'est la première fois qu'on montait une si énorme machine.
Oui. Oui, la première partie durait 2h30. Ensuite, il y avait une demi-heure d'entracte. Et la deuxième partie durait 1h15. Alors ça faisait tout de même 4h15, quelque chose comme ça, plus l'entracte, ça faisait 5h15.
Et ce n'était pas la version intégrale?
Ah non, la version intégrale durerait 9h. Mais c'est déjà suffisant. Maintenant, avec le soulevant des îles Baléares, on pourrait faire 4h30 les trois premières journées et 1h10 les Baléares. Enfin, mettons 1h. Ça ferait 5h30, quoi. On pourrait jouer maintenant pour 5h30 avec l'entraînement à 6h. Mais moi, je trouve qu'il faut, il faudrait qu'il réserver des quelques coupures. On ne peut pas jouer intégralement de Soulier de Satin.
Il a accepté les coupures facilement.
Pas tellement facilement. D'ailleurs, nous avons fait une représentation exceptionnelle des tombées du Soulier de Satin.
Bout à bout.
Enfin, oui, on avait fait une soirée comme ça de 3 heures, en expliquant, en recitant les scènes qu'on avait coupées, en les disant, elles sont toutes intéressantes. Et on commençait à 5h30. La représentation à cause du couvre-feu. Et c'est 43, c'est une bonne année pour moi, puisque j'ai fait les Enfants du Paradis tout de suite après le Soulier de Satin. Pendant que je jouais le Soulier de Satin le soir, je tournais les Enfants du Paradis. Et alors, un jour, j'avais tourné dans la journée en pierrot, blanc, n'est-ce pas, masque blanc, et je n'avais pas eu le temps de me démaquiller, il fallait que je bondisse à la Comédie Française pour jouer le Rodrigue des Souliers de Satin. Et j'arrive avec ayant gardé mon masque blanc, et je rentre dans les escaliers que je montais à 4 à 4, je rentre dans le ventre d'un peintre en bâtiment, n'est-ce pas, qui était en train de repeindre en blanc le plafond d'escalier. Alors il avait la tête un peu tordue parce que toute la journée il avait regardé le plafond, et c'était un peu comme le Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et il regarde le plafond, je lui rentre dedans, il voit mon masque blanc, il regarde son pinceau. Alors je lui ai dit non, c'est pas vous qui m'avez fait en blanc. Mais...
Et vous êtes rentré en scène?
Ah bah oui, je suis entré en scène. Moi, tout ça, c'est une époque assez nostalgique, parce que j'avais 32, 33 ans, quoi. Alors, le Soulier de Satin, la Comédie Française, les Enfants du Paradis. Et puis 32 ans, quoi.
Vous avez vu des manuscrits de Claudel? Le manuscrit du Soulier, vous l'avez vu en main?
Non.
Vous l'avez jamais vu en main?
Non, j'ai pas vu le manuscrit.
Vous savez pas comment il travaillait?
Non, j'ai pas vu le manuscrit de Soulier. Mais nous avions fait des essais d'impression en respectant les longues et les brèves et les accents. Une impression musicale. Et on avait comme projet de faire tout le Soulier comme ça. Puis ça a été long. J'en ai fait juste le monologue du Père Jésuite.
Côté de Jean-Louis Barrault, véritable prêtresse de la scène claudelienne, Marie-Belle et Ève Francis. Incarnation de main grand rôle claudelien, lectrice et conférencière, nous écoutons cette dernière témoigner de son affliction à l'annonce de la mort de Claudel et évoquer pour nous le Soulier de Satin.
Pourquoi Claudel a-t-il donné à sa pièce le titre du Soulier de Satin?
Vous savez que le Soulier de Satin est un drame historique. L'action se situe au XVIe siècle en Espagne. Mais c'est aussi un drame privé. Le drame de l'amour contraire à la loi de Dieu. Et c'est le fond de toute l'œuvre de Claudel. L'homme n'est pas fait pour le bonheur. Dans Tête d'or déjà, il avait dit « Il y a ce besoin de l'homme avant tout qui est d'échapper au bonheur. Ce bonheur qui abolit l'état de désir. » Car pour Claudel, c'est l'état de désir qui est l'état le plus fécond. Nécessité du sacrifice, nécessité d'accepter le supplice imposé pour détruire en soi le péché. Et cette préoccupation chrétienne domine encore le Soulier de Satin. L'héroïne du drame, voilà, a été mariée toute jeune à Dom Pélage, qui est un juge sévère, mais elle aime Rodrigue et Rodrigue l'aime. Tous deux sont des croyants. Et tout au long de la pièce, ils sont séparés par les épais murs du devoir et parcourent en vain pour essayer de se rejoindre les escaliers du délire, dit Claudel. Le Soulier de Satin, le titre veut dire, voilà, Prouèse, décidé à fuir, a écrit à Rodrigue et désigné une auberge dans la Sierra où elle essaiera de le rejoindre. Elle sait que c'est mal et avant de partir, prise de remords, elle met son soulier entre les mains de la statue de la Vierge. Elle lui dit « Vierge Mère, je vous donne mon soulier. Gardez mon malheureux petit pied. Retenez-moi, car je cours vers mon amour. Mais quand j'essaierai de m'élancer vers le mal, que ce soit avec un pied boiteux, gardez mon pauvre petit soulier. Gardez-le contre votre cœur, ô grande maman effrayante. » Et la Vierge l'a singulièrement exaucée.
À Marie-Belle maintenant, la prouesse de 1943, d'évoquer Paul Claudel, et ce, au micro mutin de Sophie Desmarais.
Madame Marie-Belle, j'ai eu grâce à vous, dans le soulier de satin, ma plus grande émotion de théâtre. Vous étiez une merveilleuse Dania Prouèze. Et je pense que c'est un rôle qui a dû être très dur à jouer, parce que Claudel n'est pas un auteur facile.
Non, mais c'était un homme si merveilleux. Alors avec lui, tout était facile. Évidemment, la pièce était très difficile. D'ailleurs, ce qui va vous amuser, c'est quand il est venu me voir jouer Phèdre.
Oui.
Et quand il m'a vu jouer Phèdre, il est monté dans ma loge. Il m'a dit, mademoiselle, j'aimerais beaucoup que vous me jouiez Dania Prouèze.
Mm-hmm.
Connaissez-vous la pièce ? Je lui ai dit, non, monsieur, je ne la connais pas. Déjà, ça l'a beaucoup fait rire. Et il m'a dit, je vais vous déposer le manuscrit demain chez vous, vous le lirez, vous me téléphonerez.
Oui.
Je lis le manuscrit, je lui téléphone, je lui dis, monsieur, c'est certainement merveilleux, mais je n'y comprends rien.
Ah bon ?
Alors là, il a encore beaucoup, il a ri.
Oui.
Et il m'a expliqué Dania Prouèze, évidemment, c'est très difficile, c'est le Claudel, c'est à part. C'est, il faut que, lui pouvait vous expliquer admirablement comment on pouvait dire son texte. Alors, mais travailler avec lui était vraiment un enchantement.
Il s'occupait beaucoup des comédiens.
Oh, alors. Merveilleux, puis adorable, c'était un auteur extraordinaire. On lui demandait, monsieur, c'est trop difficile, est-ce que je peux couper cette phrase ? Mais oui, enfin, j'ai rarement vu un auteur acceptant les coupures avec une facilité extrême.
Il n'aime pas beaucoup qu'on coupe leur texte. Alors, Jean Gabin, un jour, a répondu à un jeune acteur qui lui disait, voilà, monsieur Gabin, j'ai une scène difficile à jouer, comment est-ce que je dois interpréter cette scène ? Et Gabin lui a dit, dis ce qui est écrit. Alors, évidemment, au cinéma, et c'est peut-être facile, mais dans des rôles comme Dania Prouèze, il faut se pencher sur le texte,
le
porter en soi.
Oui, oui, ça sûrement, il faut y penser, je crois, longuement.
Créé en 1959 sur la scène du Théâtre de France, Tête d'or est repris en 1968, toujours dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault, dont ce dernier présente la violence nourricière.
Il n'y a qu'une seule pièce sur laquelle il a toujours été résistant, c'est Tête d'or, qu'il disait ne plus comprendre, ne plus admettre. D'abord, je crois que ça lui faisait trop mal. Et il m'a même dit, ça n'est même pas présenter un homme nu, c'est de présenter un homme à qui on a enlevé la peau. Sa pudeur ne pouvait pas le supporter, car contrairement à ce qu'on croit, Claudel était extrêmement pudique, extrêmement délicat, il avait une sensibilité féminine. Moi, il m'a fait des crises de jalousie en pleurant comme une femme, tellement on s'aimait vraiment, véritablement, hein, comme une espèce de couple spirituel. Par exemple, pour Partage de midi, il ne voulait plus non plus de cette grande scène d'amour du deuxième acte, qui est une des plus belles scènes érotiques qu'on ait écrites au XXe siècle. Et il m'avait dit, je ne veux plus de cette frénésie érotique. Et je lui avais répondu, mais vous l'avez écrite il y a plus de 40 ans. Cette scène est dans le domaine public, elle ne vous appartient plus. Et il m'a répondu à 80 ans, si vous croyez que l'érotisme ne m'appartient plus, point de suspension et en grinçant des dents. Alors, je lui ai une fois de plus tiré mon chapeau. Mais alors, pour Tête d'or, vraiment, il s'est obstiné, il ne voulait pas entendre parler de Tête d'or. Et il m'a d'ailleurs dit une chose amusante, parce que je lui disais, on aurait dû monter Tête d'or en 95, quand la deuxième version a été écrite, elle date de 1894, et en 95, Tête d'or aurait été un nouvel Hernani. Il m'a répondu, ben, si vous le montez, ça sera peut-être aussi risible qu'être Hernani maintenant. parce qu'il détestait Hugo, enfin, il était un petit peu jaloux, quoi. Et finalement, alors de guerre lasse, il m'a dit, eh bien, je vous autorise à le monter quand je serai mort. Alors nous n'étions plus pressés de le monter, mais enfin, quand il est mort en 55, et alors en 59, nous l'avons monté. Et aujourd'hui, Tête d'or est absolument l'œuvre de la jeunesse actuelle. Donc, cette reprise de Tête d'or, 9 ans après sa création, est une reprise extrêmement brillante et qui venge absolument Claudel de ceux qui le croient encore difficile à absorber, parce que c'est du lait pour tout le monde, n'est-ce pas?
Sylvia Monfort ne figure pas parmi les vestales du théâtre claudelien. Elle donne néanmoins du poète qu'elle a joué une vision aiguë, mettant en avant des textes aussi percutants que méconnus que les poèmes mécaniques.
Sylvia Monfort, quand avez-vous lu pour la première fois Claudel ?
Je l'ai lu avant de voir représenté. Et me destinant quand même, dans le secret, mais toujours, au métier de comédienne, je me plaisais à relire. Je me souviens du partage de midi, particulièrement de la grande scène de Dona Proez, disant à Rodrigue qu'elle pouvait au moins, puisqu'elle ne pouvait le rejoindre, elle pouvait au moins faire qu'il souffre d'être séparé d'elle, m'avait frappé sur tous les plans.
C'est-à-dire que la première rencontre qui vous a surpris, c'était une situation beaucoup plus qu'une langue.
Je crois que chez Claudel, on ne peut pas séparer les deux choses. Les situations vous arrivent de plein fouet par la langue, uniquement par la langue. Il y avait aussi, songé quand même, quand dans ma jeunesse j'ai lu ça, c'était très surprenant de voir cette manière de phraser, d'aller à la ligne sans virgule, sans ponctuation, et de créer, si vous voulez, une nouvelle manière de s'exprimer, qui était pour nous plus frappante encore que le contenu.
Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Le premier Festival d'Avignon, j'ai eu l'honneur d'appartenir à la courageuse équipe, à l'heureuse équipe qui a été celle du premier Festival d'Avignon. Et Villard avait à cette époque demandé l'autorisation à Claudel, qui était encore vivant, de représenter l'histoire de Toby et Sarah. Et nous avions tous été extrêmement surpris parce que Villard, qui attachait une grande importance, avait envoyé une lettre de demande très chaleureuse, très détaillé à Paul Claudel, et Paul Claudel, sur sa propre lettre, lui avait mis pas d'objection et retourné la lettre. Alors évidemment, comme pour nous, c'était un demi-dieu, on ne pensait pas que les demi-dieux s'exprimaient aussi rapidement. Et en fait, c'est Maurice Cazeneuve qui en a assuré la mise en scène, et Maurice Cazeneuve, est, d'ailleurs, c'est sa seule mise en scène, il n'a rien fait depuis, mais c'était une très belle mise en scène, et on l'a joué dans un lieu qu'on n'exploite plus pour le théâtre, qui était le Jardin d'Urbain. Alors ce premier Claudel dans le Jardin d'Urbain et dans la Ville des Papes, évidemment, c'était très frappant pour nous tous, et j'y jouais Sarah. Et j'ai eu une joie de comédienne très forte aussi. Une même révélation, une seconde révélation. J'ai eu la première révélation en le lisant, en le relisant pour moi seule. Et je me suis aperçu que le transmettre pour un comédien... Et j'étais toute débutante, puisque le Festival d'Avignon a eu lieu l'année de mes débuts, l'année où j'ai créé l'Aiglat de tête à Paris. Donc vraiment l'année de mes débuts au théâtre. Et là, j'ai eu le souvenir d'une fête admirable, d'une fête sans difficulté. Et j'en ai conclu très vite que les amateurs, finalement, sont au moins d'aussi bons servants de Claudel que les professionnels. Je veux dire que le métier de comédien, je ne crois pas qu'il aide particulièrement bien à restituer le langage de Claudel. Peut-être maintenant plus parce que les comédiens ont accepté cette façon de parler si personnelle de Claudel. Mais à l'époque, je pense que des amateurs le jouaient avec plus de ferveur, plus de foi et moins d'inquiétude que les comédiens. Plus on est inexpérimenté, plus on s'accroche au texte qui vous aide. Ensuite, on peut prendre de la distance avec un texte, mais au début, on s'y accroche désespérément. Et c'est une grande chance au début de sa carrière de rencontrer Claudel, parce que si on s'y accroche, on va quand même loin avec lui. Il y a eu un grand virage pour moi dans Claudel, puisque j'ai à nouveau rejoué cette histoire de Toby et Sarah, mais l'ange, cette fois-ci, qu'avait créé Cuny à Avignon. Et j'ai joué donc cet ange dans une autre mise en scène de Vitali, dans la cour de l'évêché de Sens, enfin vraiment dans des conditions admirables aussi. Et j'ai retrouvé ce même texte, ce large souffle. Et puis, j'ai continué à relire Claudel très secrètement et je me suis tourné vers une partie de Claudel qui me touche peut-être plus encore que son théâtre, qui est sa prose, qui est tous ses discours. Chaque fois qu'il arrivait dans un pays comme ambassadeur, il était obligé de prendre la parole et il y a des textes admirables, mais aussi sa découverte du monde matérialiste, c'est-à-dire sa découverte de la motocyclette, de l'aviation, de l'automobile. Et ce sont des textes, je les faisais lire récemment à un jeune homme qui est très entiché d'une motocyclette, et il convenait que jamais il n'aurait su s'exprimer aussi bien à propos du phénomène que la motocyclette entre les jambes d'un homme, peut-être. Et il disait, mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Affolé de ne pas connaître le nom de Claudel alors qu'il connaît si bien la motocyclette, et ainsi de l'aviation, et ainsi de mille choses. Et c'est cette découverte chaque jour renouvelée de sa prose qui m'a amené à vivre dans la lecture presque quotidienne d'une œuvre très importante qui s'appelle « Les conversations dans le Loir-et-Cher ». C'est une œuvre gigantesque, c'est une œuvre qui durerait 12 heures sans doute si on la représentait, et en plus c'est une œuvre qui se mord la queue sans arrêt, c'est-à-dire que tous les thèmes y sont traités, retraités, repris, puisque ce sont des conversations à bâton rompu. Et quand j'ai envisagé d'animer Le Marais, quand j'ai envisagé d'abord de faire cette animation dans une ancienne église qui était en fait un ancien jeu de paume, dans le quartier du Marais, j'ai trouvé qu'il était excellent de commencer par un Claudel et que tout naturellement, ce Claudel ne choquerait pas les gens habitués à venir entendre un culte, mais sans être pour autant une œuvre catholique, parce que, à mon sens, c'est un Claudel très panthéiste et c'est celui qui personnellement me touche le plus, c'est-à-dire que Dieu dans cette œuvre est partout, dans les arbres, dans les couleurs, dans les couchers de soleil, dans les êtres humains, dans la détente entre eux, dans les rapports humains aussi bien que dans l'architecture qu'il évoquait en 1925 et qui est la nôtre maintenant. C'est-à-dire que Dieu est partout et je m'y retrouve mieux.
Pour Laurent Terzieff, Paul Claudel fut sûrement ce que Rimbaud a été pour le poète, l'occasion d'une véritable insémination spirituelle. Créateur de Cébès, incarnation célèbre de Louis Laine de l'Échange, il évoque, au micro de Bernard Bonaldi, en 1997, son lien à Paul Claudel.
Claudel, il vient de loin, enfin, tête d'or que nous avons créée avec Jean-Louis Barrault au Théâtre de France. La première mouture de Tête d'Or, je crois que c'était l'arbre, et à l'époque, Claudel n'était pas croyant. Enfin, je crois qu'il faisait même l'éloge de Ravachol. Je crois que Claudel est quelqu'un qui avait une foi très grande, sûrement, c'est indiscutable, mais qui en même temps n'était pas à l'abri de la souffrance. Ça, Son fils Pierre, que j'ai bien connu, lui me l'a confirmé. C'était un homme très paradoxal, évidemment, qui semblait lui aussi. Alors lui, il appartenait au monde du oui. Socialement, il a dit oui à tout le monde. Il a dit oui à Pétain, oui à De Gaulle. Il disait oui à la vie, oui à la mort. Mais je crois que il y avait derrière cet homme social, il y avait quelqu'un de secret, de très pudique d'ailleurs, parce qu'il ne montrait pas ça du tout. J'ai entendu dans ses entretiens avec Amrouche, il dit, je sais pas, Amrouche le questionne sur Nietzsche, justement, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, derrière Tête d'Or, il y a une ombre nietzschéenne, c'est très 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 grande. Et alors, par une espèce de boutade comme ça, j'entends encore Claudel dire, mais vous savez, moi, Nietzsche c'était un fou, et moi j'ai horreur des fous. Il avait un certain culot de dire ça, tandis que ce qui est arrivé à sa sœur, mais enfin voilà. Je crois que Claudel était quelqu'un de beaucoup plus double qu'on ne pense. Moi, je sais que je dois beaucoup, en tant qu'acteur, je dois beaucoup à Claudel, parce que justement, ça s'est passé autour de l'échange avec Guy Suarez et Pascal Le Boisson au Cloître Saint-Séverin, quand nous l'avons donné la première fois, dans la deuxième version. C'était une époque d'ailleurs où il n'y avait que Barrault qui montait Claudel. Hein. Il y avait eu évidemment l'événement, la révolution du soulier de satin à la fin de la guerre qu'avait monté Barrault aux Français, n'est-ce pas? On montait Claudel aux Français, on montait l'échange, on jouait l'échange de temps en temps. Mais enfin, c'était vraiment chasse gardée pour Jean-Louis Barrault. Et c'était la première fois depuis très longtemps que une jeune troupe, des acteurs peu connus, montait, jouait Claudel. Et c'était d'ailleurs la politique de Pierre, ça. Il avait dit qu'il fallait quand même que le théâtre de son père soit joué par les jeunes, soit monté et joué par les jeunes, revisité, comme on dit maintenant, par les jeunes. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai senti que mon corps et la parole allaient ensemble. Jusque-là, il y avait une espèce de dichotomie chez moi. Je sais pas, j'avais un peu du mal avec mon corps. Enfin, ça n'allait pas ensemble. Et là, dans l'échange, dans le personnage de Louis Laine, tout d'un coup, le texte est devenu physique chez moi. Je l'ai vraiment vécu physiquement. Et ça, ça a été une espèce de déclic. J'ai l'impression que j'ai fleuri, comme on dit, comme on disait des philosophes grecs. Enfin, là vraiment, je suis vraiment peut-être devenu un comédien là avec l'échange de Claudel au Cloître Saint-Séverin. J'avais le texte dans mon corps. Je l'exprimais physiquement. Je dansais le texte, si vous voulez.
Et Tête d'or, ça doit être un souvenir aussi assez extraordinaire. Vous étiez sur scène avec Alain Cuny, notamment.
Oui, c'est un très grand souvenir, Tête d'or. Ça a été donc créé, parce que Claudel ne voulait pas que cette pièce soit jouée, n'est-ce pas?
Ah bon, et pour quelle raison?
Peut-être justement parce que il y a des aspects de Tête d'or qui ne sont pas spécialement religieux. Enfin, il y a quand même cette espèce de fond nietzschéen, n'est-ce pas? Il y a cette violence, il y a cette... Claudel disait que pour monter la pièce, il faudrait que on la monte dans un endroit, c'était un peu utopique, enfin comme idée, mais enfin, elle est intéressante. Il faudrait qu'on la monte dans un lieu, dans un stalag, voilà, dans un stalag. Que ce soit monté par des prisonniers dans un stalag, comme ça, n'est-ce pas, on serait vraiment dans l'univers dans lequel lui-même se trouvait quand il a écrit Tête d'or. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui cherche une issue. Et on avait ouvert le théâtre de l'Odéon que Malraux avait donné à Barrault. C'était le théâtre de France. Barrault avait appelé ça le théâtre de France. Je pense que la pièce n'est pas une pièce facile, loin de là. Et étant donné l'enjeu de l'ouverture, je pense que Barrault n'aurait pas souhaité ouvrir avec cette pièce-là. Mais Malraux y tenait beaucoup. Malraux y tenait beaucoup. Il voulait en faire une espèce de point de départ emblématique. Il lui-même était très, 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 très accroché à la pièce. Et il nous confiait d'ailleurs que c'était une pièce pour les jeunes. Il ne se trompait pas d'ailleurs, parce que quand on a repris la pièce, je crois 7 ans plus tard, parce que ce qu'il faut signaler avec Tête d'or, c'est que ça a ouvert le théâtre de France avec Barrault, et ça l'a fermé en même temps, puisque on a fait la reprise 8 ans après, une reprise qui s'imposait, et c'était la fin de la saison. Après, il a donné son théâtre au Théâtre des Nations, et très vite il y a eu le mai 68, et le théâtre a été occupé, et donc ça a été le premier et le dernier spectacle de Barrault au Théâtre de France. Et ça a été un très, très, très grand souvenir. Alors évidemment, Malraux voulait donc que ce soit vraiment pour emblématiser encore davantage l'ouverture du Théâtre de France qu'il remettait à Barrault, n'est-ce pas ? Il a fait venir le général, il y a eu un gala. Et ça a été... Alors, c'était, C'était très éprouvant ce gala parce que c'était la première grande manifestation de la Ve République. Il y avait tout le monde, tout le Paris décoré officiel était dans la salle. Il y avait une telle atmosphère de sacralisation sociale, un tel aspect pontifiant et officiel dans la salle que vraiment, je me souviens que Craven m'a dit si j'avais voulu vendre des places au marché noir, j'aurais fait fortune. Enfin, tout le monde voulait être là. Et ça a été un fiasco, ce gars-là, parce qu'il y avait une contradiction, là aussi. Claudel aurait préféré qu'on joue la pièce dans un stalag, j'imagine. Parce que là, il y avait une contradiction vraiment incroyable entre l'atmosphère de la salle et ce qu'on disait sur le plateau. Et il y avait un mur kafkaïen d'incompréhension. Ce qui fait que la générale qui a eu lieu le lendemain ou le surlendemain, c'était un délice à côté. Enfin, voilà, c'était un très grand souvenir, cette tête d'or, parce que...
Ça a été l'occasion,
j'étais très ami avec Alain Cuny. Le hasard faisait que, justement, l'été qui avait précédé, je tournais mon premier film en Italie, La Notte Brava, avec Bolognini, et lui-même, Cuny, tournait La Dolce Vita. Et on se retrouvait, on savait qu'on jouerait ça à la rentrée ensemble, et on se retrouverait tous les soirs dans les trattoria, au bord de la mer, comme ça, en sortant du tournage, et on lisait nos scènes ensemble, comme ça. Et c'était vraiment un merveilleux souvenir. C'était Cuny était un acteur prodigieux, c'était un grand, grand, grand tragédien. Il était superbe dans le rôle. Ça a été un petit peu difficile parce que, vous savez, Cuny aussi était un homme blessé. C'était un homme très difficile. Il était très exigeant vis-à-vis de lui-même. Il avait beaucoup de difficultés. Alors, il avait tendance inconsciemment à faire porter le poids de ses difficultés sur les autres, enfin inconsciemment. Et là, en l'occurrence, c'était Barreau. Mais ils se sont réconciliés par la suite. Quand il y a eu la reprise a eu lieu quelques années après, ils étaient de nouveau très très amis. Mais enfin, c'était un petit peu difficile. Je me souviens cette répétition parce que je me souviens que avant la veille de la première, il y a eu une espèce de couturière pour Malraux, qui n'avait jamais assisté aux répétitions. Et donc, à l'issue de cette représentation, on s'est rejoint devant ma loge. Là, il y avait Cuny, Barreau, Madeleine Renaud et Malraux, donc. Et Malraux était très gentil avec Cuny. Il lui a dit vous me rappelez tel masque de je ne sais quelle période inca, n'est-ce pas, ou qui représente tel dieu, et ce masque ressemble à l'image mythique que les populations se faisaient de ce dieu-là. Et là, de même pour moi. Vous êtes ressemblant au Simoniel que j'avais dans l'esprit, n'est-ce pas? Vous lui ressemblez tellement que c'est vous. Enfin, voilà. Et alors, Alain ne se sentait plus de joie parce qu'il avait une grande estime pour Malraux. Et alors, il dit, mais je suis très touché, il lui a dit ce que vous dites, parce que moi-même, j'ai une grande admiration pour vous. Je n'ai de cesse de retrouver votre discours sur l'architecture que vous avez prononcé à Brasilia, etc. Alors, Malraux dit, mais dès demain, un motocycliste du ministère vous apportera le texte, mais bien sûr, etc. Puis alors là-dessus, Cuny dit, mais enfin, je suis content de ce que vous avez dit, mais il faut que vous sachiez que ce que j'ai fait dans le rôle, c'est une caricature, une pantalonnade, une grimace par rapport à ce que j'aurais dû faire, n'est-ce pas? Mais je dois dire que je me suis très mal entendu avec Jean-Louis ici présent, n'est-ce pas? Nos vues divergeaient totalement. Alors, là j'ai vu que Malraux, qui avait, comme chacun sait, tendance à avoir des tics. Et ces tics ont redoublé, n'est-ce pas? Il ne savait pas du tout où il était. Alors, il y a eu un froid et Madeleine s'est mise à sauter comme ça, voulant détendre l'atmosphère, en disant « Ah, sacré Alain, tu n'en diras jamais d'autre, etc. » Et alors là-dessus, Barreau dit « Mais écoute, Alain, c'est pour toi, c'est parce qu'on t'aime, tout ce que je t'ai dit, c'était pour que tu sois au mieux de toi-même. » Enfin, alors là, Cuny a été vraiment cinglant, il a dit « Mais Jean-Louis, on peut aimer et desservir. » Il est de bonne volonté redoutable. Et je voyais l'éthique de Malraux qui augmentait au fur et à mesure. Mais enfin, encore une fois, c'était tout à fait... C'est le genre de choses qui arrivent très souvent dans le métier, où les gens ne s'entendent pas pendant les répétitions, puis après, ils sont très amis. Et voilà. Mais enfin, je me souviens surtout de la tête éberluée de Malraux.
Et vous avez des souvenirs aussi pittoresques sur Christophe Colomb?
Non, je me souviens aussi que ce gars-là, de Tête d'Or, je m'y attendais pas. C'était un démarrage de pièce très difficile. Très difficile parce que ça commençait par « Me voici imbécile, ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues ». Je m'en souviens encore. Et attaquer une pièce avec ça, ça demandait une très grande concentration. Je n'ai pas de méthode d'une façon générale, ni comme acteur, ni comme metteur en scène. Donc Je ne suis pas l'acteur qui dit quoi qu'il arrive, il faut arriver au théâtre à 4 heures de l'après-midi, il faut se concentrer, Mais là, vraiment, j'avais besoin d'être maquillé, habillé une demi-heure avant sur le plateau pour, justement, pour essayer d'entrer dans cet univers d'adolescent, n'est-ce pas, qui s'adresse tout simplement à Dieu et qui lui dit qui je suis, voilà. Et c'était très fort, ça avait une densité, c'est un texte qui avait une densité métaphysique très 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 forte. J'entends les trois coups, et puis là-dessus, la Marseillaise. Et ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal. Oui. Il y a eu même un couac d'ailleurs dans la Marseillaise. J'étais pas le seul à être ému.
Oui, pour Christophe Colomb, vous avez aussi des souvenirs pittoresques.
Moi, je m'entendais très bien avec Jean-Louis. J'avais beaucoup de tendresse pour lui et c'était une merveilleuse aventure. Merveilleuse aventure. On l'a donc créé au théâtre. C'était le Théâtre d'Orsay d'ailleurs à l'époque. Oui, c'était le Théâtre d'Orsay. Et puis après, nous avons fait une grande tournée en Russie. Et par la suite, je crois, à Vienne, Zurich, tout ça, oui.
Vous venez d'évoquer des souvenirs concernant votre rôle de Sébeste dans Tête d'or de Paul Claudel. Auriez-vous la gentillesse de nous lire peut-être le début de la pièce?
Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau, devant les choses inconnues. Et je tourne la face vers l'année et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien et je ne peux rien. Que dire, que faire? À quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent, comme les songes? Tout ce qu'on dit, et la raison des sages m'instruit avec la sagesse du tambour. Les livres sont ivres. Et il n'y a rien que moi qui regarde. Et il me semble que tout, l'air brumeux, les labours frais, les arbres et les nuées aériennes me parlent avec un langage plus vague que le ya, ya de la mer. Disant, ô être jeune, nouveau, qui es-tu? Que fais-tu? Qu'attends-tu, hôte de ces heures qui ne sont ni jour, ni ombre, ni bœuf qui hume le sommeil, ni laboureur attardé à notre bord gris? Et je réponds, je ne sais pas. et je désire en moi-même pleurer ou crier ou rire ou bondir et agiter les bras. Qui je suis ?
C'est Paul Claudel lui-même, narrant son équipée spirituelle et évoquant ses travaux d'exégèse biblique, que nous retrouverons demain dans notre prochaine émission. La réalisation aujourd'hui était confiée à Annie Douel, le mixage à Yves Baudry. C'est une série proposée par François Angelier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juillet 2005. Le rendez-vous est pris demain à la même heure dans les Nuits de France Culture, quatrième volet de la série « Philosophe et théologien ».
Relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. There's no way I'd compare all those scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing, staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. Gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco, and Ashtabula.